BFM Business, élu média de référence sur l'économie. BFM Business, premier sur l'écho. BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne, François Sorel.
Un grand bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là sur BFM Business et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Bienvenue ici au Palais des Congrès, nous sommes à Porte-Maillot pour une émission exceptionnelle à l'occasion de l'AWS Summit édition 2024. Amazon Web Services qui a mis les petits plats dans les grands ici pour recevoir les startups et les acteurs qui comptent dans deux domaines, le cloud bien sûr, mais aussi l'intelligence artificielle. Avec au sommaire de ce Tech & Co, donc depuis l'AWS Summit, la tech pour prévenir les feux de forêt. AXA et Kairos se sont associés justement pour détecter les incendies. Évidemment, c'est très important, notamment pour les pompiers. On parlera aussi de l'intelligence artificielle qui peut détecter les vols à l'étalage avec une start-up qui s'appelle Vision et qui fait appel aussi à l'IA. Et tout à l'heure, on s'intéressera à la MedTech. Gros sujet hyper représenté ici avec plusieurs start-up et aussi le géant Sanofi qui sera sur notre plateau. Bienvenue, c'est Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et pour débuter donc ce Tech & Co, la quotidienne depuis la AWS Summit, évidemment, j'accueille un porte-parole d'AWS, c'est la moindre des choses quand même. Stéphane Andinger est avec nous, bonjour Stéphane.
Bonjour François.
Vous êtes directeur de la technologie chez AWS, tout d'abord merci de nous accueillir ici sur ce joli plateau, on est vraiment au cœur de l'événement. Donc 11e édition de cette AWS Summit ici au Palais des Congrès Porte-Maillot. Vous attendez à peu près quoi? 10 000 visiteurs, c'est ça pour cette édition?
Oui, on attend à peu près 10 000 visiteurs. Ce sont aussi 150 sessions.
Ouais.
Et cette année, d'ailleurs, une quarantaine de démonstrations. Et comme c'est l'année olympique, bien sûr, beaucoup d'exemples tournés autour du sport.
À quoi sert cet événement pour AWS, ici à Paris?
C'est d'abord un événement qui permet à nos clients de connaître les offres et de rencontrer à la fois de très nombreux partenaires, mais aussi d'échanger sur des cas d'usage et d'échanger finalement sur comment encore mieux appliquer les technologies du cloud, de l'IA et de la data pour leur propre cas d'usage.
Voilà, alors évidemment on va beaucoup parler de cloud parce que c'est votre AWS, c'est le cœur de métier, mais aussi beaucoup d'intelligence artificielle, hein, et vous le verrez tout au long de ce Tech & Co. Quel type de personnes viennent ici en fait? Il y a quoi? Il y a des grands groupes, il y a des startups, il y a des ingénieurs. Qui vient un peu à l'AWS?
C'est ça la magie du cloud, c'est qu'en fait ça permet à tout le monde d'utiliser le meilleur des technologies du numérique, de démocratiser à la fois la sécurité, donc le top de la sécurité, mais aussi de toutes ces technologies autour de l'IA générative qui est très présent. Donc des startups, des licornes, des ce qu'on appelle les digital natives, donc les sociétés qui sont nées dans le cloud et dans le numérique, jusqu'au CAC 40.
Alors ce qui est intéressant, c'est que vous profitez de cet événement pour annoncer pas mal de choses. Partenariat avec Mistral, on va y revenir dans un instant, mais surtout Bedrock, qui après avoir été lancé aux États-Unis, arrive ici en France.
Exactement. Donc Amazon Bedrock, c'est notre service qui permet là aussi de démocratiser, de faciliter l'usage de l'IA générative, des LLM, des modèles larges de langage, comme on les appelle, et qui permet en quelques minutes, littéralement, de tester parmi les meilleurs modèles du marché. Alors que Mistral, on va en reparler, bien sûr, mais aussi Anthropic Claude, Stability AI, Cohere et beaucoup d'autres modèles.
Pas OpenAI?
Ah, pas OpenAI, non, mais en tout cas, tout un choix. Et vous savez, notre conviction, c'est que c'est qu'il n'y a pas une technologie qui va répondre à tous les besoins, mais au contraire, ça permet à nos clients de choisir le meilleur outil pour le meilleur prix aussi, puisqu'en fait, on a la règle des 3 C, c'est les trois choses importantes à avoir, bien sûr, c'est avoir le choix des solutions, avoir aussi le contrôle des coûts et la confidentialité des données.
Très bien. Est-ce que cette année, en plus de l'IA, il y aura des thèmes importants? Vous parliez des JO tout à l'heure. Est-ce que il y a une ambiance de JO qui tourne ici dans ce salon?
Il y a une ambiance de JO, mais il y a surtout une ambiance d'expérimentation et on va dire les clients qui sont très fiers de montrer finalement ce qu'ils ont pu faire. Alors clients et partenaires, et quelque part ça sert aussi à inspirer des nouveaux cas d'usage et se rendre compte que beaucoup de choses dans les objets connectés, par exemple, donc les usines connectées, les jumeaux numériques, le développement durable, qui en fait beaucoup de choses qui sont pas si difficiles à faire que ça, au contraire, et qui permettent d'avoir des gains très rapides pour un coût faible et un délai de mise en œuvre extrêmement faible.
Quelles sont les startups et les entreprises stars que vous recevez cette année? Alors, tout à l'heure, on aura sur le plateau Tech & Co, Sanofi, AXA, Voilà, il y en a plein, hein, j'imagine. Mistral, notamment.
Alors, parlons de Mistral. Alors, oui. Bedrock, donc les annonces d'aujourd'hui, c'est que Amazon Bedrock est disponible en France, dans la région Paris.
Dès aujourd'hui.
Depuis ce matin.
D'accord.
Exactement. Donc, vous pouvez y aller directement.
C'est un événement, non, j'imagine, pour AWS France.
Ah oui, c'est un événement. C'était attendu par nos clients. Et voilà, et c'est l'occasion avec le Summit de Paris. Donc, c'est une option supplémentaire. Amazon Bedrock était déjà disponible en Amérique du Nord, au Japon. Il était déjà disponible en Europe, à Francfort. Et donc, c'est un choix supplémentaire pour les clients qui souhaitent que leurs données restent sur le territoire national ou qui ont des besoins de latence extrêmement faibles.
Donc, souveraineté et IA, c'est ça un peu Bedrock. Hein,
pour exactement. Et surtout, la sécurité. C'est-à-dire que les données sont chiffrées.
D'accord.
Et les données de nos clients n'appartiennent qu'à nos clients, ne sont jamais partagées avec les fournisseurs de modèles. Donc, les données qui sont utilisées ne seront jamais partagées avec Mistral, avec Anthropic ou quoi que ce soit, parce que c'est la propriété de nos clients.
Justement, parlons-en de Mistral. Qu'est-ce que vous annoncez comme partenariat avec Mistral aujourd'hui ?
Alors, grosse annonce. D'ailleurs, Arthur Mensch, le CEO de Mistral, était sur scène en introduction de la keynote. Et c'est surtout la disponibilité de Mistral Large, qui est le modèle le plus performant.
Le top du top. Hein.
Le top du top. Voilà, qui est vraiment dans ce cercle très fermé des modèles ultra performants. Et qui vient compléter le Mistral 7B et 8X7B, qui étaient déjà disponibles depuis quelques semaines.
D'accord. Donc, il est possible d'installer en quelque sorte Mistral Large maintenant sur AWS, c'est ça, hein,
alors,
la nouveauté.
En fait, c'est même mieux que ça, il est déjà installé.
Il est déjà installé.
Il est déjà prêt à l'emploi avec un modèle qu'on appelle serverless, c'est-à-dire que vous ne gérez pas les serveurs, vous ne gérez pas la capacité, vous vous contentez d'envoyer des requêtes et la facturation est directement liée à votre usage dès la première seconde.
Merci beaucoup Stéphane.
Merci, bonne
AWS. Je crois que vous avez quelques rendez-vous aujourd'hui.
Exactement.
Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co, la quotidienne. À noter que cette émission est pré-enregistrée. Hein. Elle est diffusée comme chaque soir sur BFM Business, mais on l'a enregistrée il y a quelques heures. Stéphane Adinger, donc directeur de la technologie chez Asus. Et tout de suite, on va parler de la prévention des incendies de forêt avec nos deux invités qui arrivent.
Tech & Co, la quotidienne, les invités.
Voilà, et pour commencer ce Tech & Co, la quotidienne, cas concret de ce que peut apporter l'IA, le cloud et le talent des startups avec nos deux invités qui sont sur ce plateau. Mathilde Alençon, bonsoir, merci d'être là Mathilde.
Bonsoir.
Vous êtes chef de projet chez Kairos et à vos côtés c'est Pierre Durostu. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général d'AXA Digital Commercial Platform. Parce que vous vous associez, vous êtes en partenariat tous les deux. On se souvient de ces épisodes d'incendie dans le sud-ouest il y a 2 ans, je crois, qui ont été catastrophiques avec des issues dramatiques. Hein, on s'en souvient. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous dites, enfin, vous vous êtes posé la question, comment l'intelligence artificielle peut prédire ce type de drame et notamment les incendies. Et donc, Pierre, vous vous êtes associé à Kairos. Mais peut-être donner la parole tout de suite à Mathilde pour que on comprenne ce que vous faites. Quel est quels sont les fondements de Kairos, s'il vous plaît?
Oui. Alors, Kairos, c'est une start-up française qui est leader de l'intelligence environnementale. Et nous sommes spécialisés dans l'exploitation des images satellites pour fournir des données à nos clients. Et nous avons 3 missions principales. La première, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment les émissions de méthane et de CO2 issues de l'activité humaine. La deuxième mission, c'est celle de protéger les écosystèmes, les populations, les biens contre les risques climatiques croissants, ce qui est l'objet du partenariat avec AXA. Et la troisième mission, c'est d'accélérer la transition énergétique.
Mais comment vous faites tout ça? Parce que c'est bien beau, mais c'est quoi? Vous récoltez des images satellites Quel est votre job, en fait, dans tout ça?
C'est exactement ça. On a développé une expertise en interne qui permet de traiter des images satellites et d'en dériver des signaux, des changements, qui permettent de donner des informations sur les niveaux d'émissions, l'exposition à des risques climatiques. Et donc, on a toute une expertise en interne, étroitement liée au monde académique et à la recherche, qui a pu permettre de visualiser ces images satellites et d'en tirer des informations actionnables.
C'est-à-dire qu'il y a une source d'émissions CO2. Le satellite va forcément prendre des clichés de tout ça. Et vous, grâce à l'IA, vous allez pouvoir détecter que telle usine ou tel lieu émet du CO2, c'est ça, par exemple?
Alors, pour le CO2, c'est un peu différent. On fait ce que vous avez décrit pour le méthane. On le fait très bien. On détecte dans l'atmosphère des concentrations de méthane.
D'accord.
On va ensuite quantifier et attribuer au niveau du site industriel et d'un opérateur.
Et quels sont vos clients là? Ce sont justement ces sites industriels qui veulent savoir ce qu'ils rejettent? Ou ça peut être des gendarmes du climat
Oui, alors notre base client est très diverse. On y compte des institutions financières, des banques, des groupes d'assurance. On compte également donc, dans le secteur public, des gouvernements, des institutions internationales qui utilisent nos données. Et puis toutes les entreprises, les gros corporates, les clients industriels qui veulent aussi mener leur transition énergétique.
Pierre Durostu, expliquez-nous un petit peu comment vous avez rencontré Kairos et quelle est l'idée qui a germé concernant votre partenariat.
Absolument. Alors, ce qu'on constate depuis une dizaine d'années chez AXA et à travers de toute l'industrie, c'est un vrai changement dans la nature des risques, que ce soit les risques cyber, les risques géopolitiques, les risques de supply chain, etc. Et en particulier sur les risques liés au changement climatique. Un des gros enjeux qu'on a en tant qu'assureur, c'est comment est-ce qu'on arrive à mieux comprendre un risque lié au changement climatique, là où le métier de base d'un assureur, c'est de regarder ce qui s'est passé dans le passé pour estimer ce qui va se passer dans le futur. Avec le changement climatique, on doit innover et inventer des nouvelles manières de comprendre les risques.
Parce que le vieux métier de l'assureur d'avant ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui.
Il est aujourd'hui challengé par les changements. Par essence, quand vous avez un changement, c'est quelque chose de différent. Et donc, si le métier historique de l'assureur, c'est de regarder une moyenne des 20 dernières années ou des 50 dernières années, aujourd'hui, avec les changements climatiques, on est obligé d'inventer des nouvelles méthodes pour réussir à mieux comprendre le risque et à mieux aider nos clients.
Donc, plus être dans la prédiction. C'est ça.
Plus être dans la prédiction, plus être dans la prévention. Et c'est toute l'idée du partenariat qu'on a fait avec Kairos, qu'on a rencontré maintenant il y a 3 ans, c'est de se dire, AXA a cette vraie volonté d'innover et de changer complètement sa manière d'évaluer les risques. On a plein d'expertise, mais on a aussi besoin de s'allier à des partenaires technologiques extrêmement forts dans ce qu'ils font, et c'est le cas de Kairos, pour inventer de nouvelles manières de comprendre un risque, et notamment sur les feux de forêt. Et on travaille avec Kairos et avec d'autres sur d'autres périls, sur les inondations, sur les tempêtes, etc., pour vraiment mieux appréhender tous les risques climatiques et les risques en général.
Parce que bien évidemment, si vous arrivez à prédire ce type d'événement, vous gagnez de l'argent. Enfin, je veux dire, il y a une réalité écologique, bien évidemment, mais il y a aussi une réalité économique pour les assureurs.
Alors, il y a surtout une réalité économique pour nos clients, parce qu'aujourd'hui, on voit que les sinistres liés au changement climatique et à tous ces nouveaux risques explosent. Il y a des régions dans le monde où aujourd'hui, les primes d'assurance contre des feux de forêt ou des inondations, notamment aux États-Unis, sont beaucoup trop chères et du coup, les gens finissent par ne plus s'assurer.
On le voit en ce moment à l'actualité, hein. Il y a des régions de France qui sont sous les eaux. Hein.
Exactement. Et l'enjeu qu'on a aujourd'hui et le parti pris d'AXA, c'est d'investir massivement dans la technologie pour faire de la prévention, pour aider nos clients. Parce qu'on est convaincu que l'assurance seule ne peut plus suffire et qu'il faut associer à l'assurance un métier de prévention. Et c'est tout l'objectif de ce qu'on fait, notamment avec Kairos.
Mathilde, vous avez donc mis en place avec AXA le modèle Wildfire, c'est ça ?
C'est exactement ça. On a décidé d'allier l'expertise métier d'AXA en matière de prévention, de gestion des risques, avec l'expertise technologique de Kairos dans le traitement des images satellites. Et donc AXA est venu vers nous avec un challenge, celui de construire ensemble un modèle nouvelle génération pour mesurer l'exposition au risque de feu. Et AXA avait 3 critères pour nous. Il fallait que ce modèle soit dynamique, qu'il soit transparent et qu'il allie précision et déploiement à grande échelle. Sur la partie dynamique, on a donc mis en place un modèle qui est actualisé par défaut chaque mois en période de feu, qui peut être actualisé toutes les semaines pour vraiment refléter le dernier état du niveau de risque en termes de végétation, de sécheresse, etc. Donc ce côté dynamique, il est extrêmement important. Il a une vraie valeur ajoutée aujourd'hui pour AXA et pour les clients d'AXA.
Pierre, qu'est-ce que vous récupérez comme données pour qu'on comprenne bien? C'est-à-dire que, évidemment, quand on est en pleine période de sécheresse, la végétation change. Elle est évidemment beaucoup plus fragilisée par rapport aux incendies parce que voilà, ça peut s'embraser. Et donc le modèle de Kairos vous permet de récupérer ces données, c'est ça ?
Absolument. Donc c'est vraiment ça. On travaille avec Kairos et donc on a des équipes jointes. Nous, on a des data scientists de notre côté qui travaillent et des experts du risque qui travaillent avec Kairos pour évaluer les vrais facteurs de risque qui nous intéressent. Par exemple, la présence de végétation, la typologie de végétation, la distance entre la végétation et un bâtiment. Et nous, on utilise ça pour accompagner nos clients et faire de la prévention. Et leur dire, attention, sachez que vous êtes dans une zone où le risque explose, a augmenté. Voilà les mesures de prévention qu'il faut que vous mettiez en œuvre pour réduire votre exposition.
C'est ça qui est incroyable et qui est totalement nouveau. C'est-à-dire que vous allez récupérer de la donnée. Avec Kairos, vous l'analysez et vous voyez que, par exemple, telle propriété, je ne sais pas moi, dans le sud-ouest, peut être menacée parce que tout autour, on se retrouve dans une zone de sécheresse avec voilà, un foyer qui pourrait s'embraser à tout moment. Vous leur envoyez un mail, un SMS pour leur dire attention, là ça devient critique.
Exactement, donc on travaille de plusieurs manières avec nos clients. Avec certains, on travaille via nos distributeurs, via nos agents par exemple, c'est ce qu'on a fait l'été dernier en France. Avec d'autres clients dans d'autres pays, on travaille de manière différente où on envoie des alertes en direct. Mais notre objectif, c'est de les accompagner en amont de la saison pour leur dire voilà la situation dans laquelle vous êtes et voilà ce que nous, on projette comme risque sur votre portefeuille d'actifs. Donc parfois, on a des clients qui ont des sites partout dans le monde, donc ils ont besoin de cette visibilité. Et on leur apporte des méthodes très concrètes. Et on a des ingénieurs prévention qui sont experts, qui vont permettre d'accompagner nos clients pour justement prendre les bonnes mesures. Par exemple, couper des arbres, réduire le taux de végétation, prévoir des bassines d'eau, etc.
Mobiliser les pouvoirs publics, par exemple, les pompiers, c'est quelque chose qui peut être envisagé.
Absolument. Et nous, notre conviction, c'est que le partenariat public-privé, il est clé face au changement climatique. Et c'est vraiment pour ça qu'on veut innover dans cette direction-là et accompagner les autorités locales et les autorités nationales dans cet enjeu-là, qui est un enjeu qui nous concerne tous.
Alors, on le voit, Mathilde, on est en plein chamboulement climatique. Hein. Il fait très chaud l'été. L'hiver, il fait froid, il y a beaucoup d'eau. On voit en ce moment, hein, l'actualité, je le disais, nous rattrape avec toutes ces inondations. Est-ce que votre modèle peut aller plus loin ? Aujourd'hui, vous détectez la sécheresse. Est-ce que demain, vous pourriez détecter des crues ou d'autres choses comme ça qui sont vraiment d'actualité et qui pourraient intéresser Pierre ?
Tout à fait. Et on a des discussions en cours pour savoir quels autres périls nous pourrions couvrir dans le futur. L'imagerie satellitaire a beaucoup à apporter donc dans la modélisation climatique pour fournir des modèles qui soient pertinents, actualisés. Alors, vous l'avez mentionné, donc la montée des eaux, l'érosion également, on pourrait l'explorer.
Bien sûr.
La grêle, sur la sécheresse, on a aussi ce phénomène dont on entend parler, le retrait gonflement des sols argileux, qui est très présent en France. Donc, on a bien évidemment beaucoup à faire et le satellite peut être aussi une réponse pour ces modèles.
Après, Pierre, il y a des choses, il y a des éléments qu'on peut rien faire. Enfin, je veux dire, contre l'inondation, voilà. Enfin, il y a la grêle, par exemple, c'est compliqué.
Alors, il y a plein de choses qui sont très compliquées et c'est pour ça que la prévention est clé. On n'est pas là pour éviter une inondation parce que de manière pratico-pratique, c'est très difficile d'éviter une inondation.
Peut-être sur le long terme, en engageant des travaux, des choses comme ça.
On est là pour accompagner nos clients et les pouvoirs publics pour comprendre comment les expositions évoluent et prendre des mesures en amont pour réduire au maximum l'impact d'un événement donné. Et c'est vraiment l'enjeu du partenariat qu'on a avec Kairos. Hein. Nous, on fonctionne chez AXA comme une petite start-up. On est un véhicule d'innovation et on s'associe pour apporter l'expérience et l'expertise de l'assurance, s'associer avec l'expertise d'une start-up comme Kairos et construire quelque chose de nouveau ensemble parce qu'on a besoin de nouveautés. Si on n'est pas capable d'innover sur ces enjeux-là, on n'arrivera pas à y répondre.
Est-ce que sur les sinistres plus traditionnels, vous avez aussi de l'intelligence artificielle pour des prédictions ? Le vol, les cambriolages, enfin je dis n'importe quoi parce que ça nous touche et on est tous concernés par ça. Aujourd'hui, il y a de l'IA là-dedans ou pas ?
Absolument, il y a de l'IA partout et c'est ça qui est très excitant. On est en train de vivre une période extrêmement excitante pour l'assurance. C'est une révolution copernicienne quasiment. Pour les vols et les cambriolages, on travaille avec des partenaires qui sont aujourd'hui capables d'identifier la probabilité qu'un cambriolage arrive dans une zone donnée parce qu'il y a eu des événements similaires.
D'accord.
Très proches. Et donc okay. Là, pareil, on est capable d'envoyer de l'alerte. Aujourd'hui, on met des capteurs dans des bâtiments qui vont mesurer en temps réel la santé du bâtiment et dire s'il y a un risque d'arc électrique ou d'incendie, etc. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui est un vrai moyen pour nous d'augmenter nos capacités de prévention et de prédiction pour accompagner mieux nos clients.
Voilà, passionnant tout ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Mathilde Alençon, chef de projet de Kairos, et Pierre Duroustu, donc directeur général d'AXA Digital Commercial Platform. Merci,
merci beaucoup
à tous les deux. Et on va poursuivre avec l'IA et une start-up que je vais vous faire découvrir dans un instant qui s'appelle Vision.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Voilà, avec un autre cas concret de l'apport de l'IA en fait dans notre quotidien avec la start-up Vision et Benoît Koenig qui nous a rejoint. Bonsoir Benoît.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Vision, une start-up qui a 6 ans d'existence. Hein. Vous avez été créé en 2018. Vous avez en fait créé une intelligence artificielle capable de détecter et de prévenir en temps réel les vols à l'étalage. C'est incroyable. Expliquez-nous comment c'est possible aujourd'hui grâce à l'IA de détecter, on va dire, des comportements comme ça.
Eh bien, on s'est lancé il y a 6 ans, en effet. On va souffler nos 6 bougies là dans quelques semaines, avec mes 2 associés ingénieurs issus de Polytechnique, oui. Avec un pari, devenir les leaders mondiaux de la reconnaissance de gestes dans des contenus vidéo. À l'époque, en 2016-2017, impossible de faire de l'IA sur vidéo, ou très très compliqué parce qu'il manquait plein d'éléments, des bases de données d'entraînement à noter.
Bien sûr.
Les frameworks de développement nécessaires.
Parce qu'il faut le faire en temps réel en plus, quasiment, tout ça.
Exactement. Donc on a un enjeu de travailler sur de l'IA vidéo et sur du temps réel, comme vous le dites. Donc on s'est lancé il y a 6 ans, 3 ans de recherche et développement, et on commercialise depuis 3 ans maintenant notre premier cas d'usage, parce qu'encore une fois, on est leader sur la reconnaissance de gestes. Il y aura plein d'autres applications dans le futur. Le premier cas d'usage, aider les commerçants à lutter contre le vol à l'étalage. C'est un problème énorme, un problème mondial qui marche partout pareil. C'est pour ça qu'on est présent dans plus de 25 pays et de manière assez précoce dans l'histoire de l'entreprise. Le vol à l'étalage, c'est 120 milliards de dollars de pertes pour tous les commerçants du monde. Et c'est pas seulement un problème de perte de marchandises, c'est également un impact sur les prix de vente, puisque les commerçants augmentent leurs prix de vente pour compenser la perte liée au vol. Et un gros problème sur les niveaux de vente. Les États-Unis ont souvent 5-6 ans d'avance sur l'Europe dans tous les domaines, pour le meilleur et pour le pire. Oui. Je viens d'un voyage là de plus de 6 mois aux États-Unis, puisqu'on va en parler après. On a une belle traction américaine. Et aux États-Unis, on voit déjà des magasins qui mettent sous clé 80% de leurs rayons pour se prémunir contre le vol à l'étalage. Donc vous imaginez l'impact sur les ventes.
Incroyable, bien sûr.
Et 5-6 ans d'avance, ça risque d'arriver en Europe à un moment ou à un autre.
Parce que c'est vrai qu'en France, par exemple, l'alcool est sous clé, mais peut-être pour des raisons réglementaires, sans doute, je pense. Mais il y a des chiffres qui sont intéressants. Hein. Selon le ministère de l'Intérieur, en fait, tout ce qui est incident de vol dans les magasins ont enregistré une hausse de 14% en 2022. Voilà, c'est aussi inquiétant, hein. Ça veut dire aussi peut-être un malaise de notre société, hein. Si les gens font du vol à l'étalage, c'est parce que parfois ils en ont besoin. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que comment vous arrivez à détecter ces gestes? Parce que finalement, le vol à l'étalage, ça peut être des gestes anodins. Finalement, malgré tout, l'IA arrive à les détecter?
Tout à fait. Alors pour rester sur le premier sujet,
ouais.
En effet, c'est un gros problème lié sans doute à l'inflation, au contexte actuel. Il y a aussi un manque de réponse au niveau judiciaire, et c'est le problème qu'on voit aux États-Unis. Il y a tellement peu de réponses que les individus n'ont plus peur d'aller sortir de la marchandise. Et c'est un cercle vicieux, puisque plus il y a de vols, plus les prix de vente augmentent pour compenser ça. Moi, j'ai des clients qui ne mettent même plus les produits en rayon, ils mettent juste les emballages vides. Et vous avez envie d'acheter, bah vous voyez l'emballage et vous demandez à la caisse à avoir le produit.
Mais ça demande en plus une logistique incroyable pour les caissiers, pour les vendeurs.
Logistique très compliquée. Et quand vous vous faites voler, vous ne vous en rendez pas compte dans vos stocks, donc vous ne repassez pas commande à temps, et donc vous avez des ruptures de stock non anticipées.
Donc des clients mécontents.
Clients mécontents et pertes sur les ventes. Donc pour répondre à votre question, en effet, la reconnaissance de gestes, c'est très complexe. On a passé 3 ans sur la recherche et développement à entraîner notre algorithme à reconnaître 9 différents gestes liés à un vol potentiel. Donc concrètement, un individu qui va placer un article dans le pantalon, la veste, le sac à main, le sac à dos, qui va consommer un produit en surface de vente, ce qui est interdit, ou qui va enlever les étiquettes anti-vol ou l'emballage carrément, pour pouvoir sortir avec la marchandise sans que les antennes anti-vol sonnent.
C'est toute une panoplie de gestes, en fait. Alors évidemment, il faut qu'il y ait des caméras partout. Hein, voilà. Donc il faut que tous les lieux sensibles soient filmés.
Alors exactement, ça c'est pas trop un sujet. Les commerçants sont très bien équipés aujourd'hui.
Vidéosurveillance.
Depuis 95, quand la vidéosurveillance est apparue, là on est à un taux d'équipement de plus de 97% sur les commerces français, avec des caméras de très bonne qualité. Par contre, on n'a pas anticipé le fait qu'avec tous ces points vidéo, ça génère de la donnée. Qui va l'exploiter? Et il y a personne pour s'en occuper. La plupart des commerces de proximité n'ont pas les moyens d'avoir un agent de sécurité ou un opérateur vidéo.
Gérer un moniteur, ça va, mais quand on a 4 ou 5.
Exactement. Je vous invite à faire le test. Vous vous mettez
compliqué.
En face de 9 écrans en simultané. Impossible de voir ce qui se passe. Et l'IA peut le faire. Elle n'est pas plus intelligente que nous aujourd'hui. Demain, ce sera une autre histoire. Ça évolue tellement vite. Mais aujourd'hui, l'IA n'est pas plus intelligente que nous. Par contre, elle est ce qu'on appelle massivement scalable. C'est qu'elle peut analyser des millions de vidéos en parallèle, sans pause, sans vacances, sans fatigue.
Alors, je suis commerçant, j'ai les caméras partout. Je suis victime du vol à l'étalage. Je fais appel à votre solution. Vous arrivez chez moi, qu'est-ce que vous faites?
Alors, on vient placer un mini-serveur. Ça a été un gros enjeu de recherche et développement, de pouvoir faire rentrer une IA qui analyse de la vidéo, donc des ressources de calcul très importantes nécessaires. On était au tout début de l'entreprise sur des gros serveurs Nvidia, ce qu'on appelle des serveurs GPU, des grosses tours. On a fait un gros effort d'optimisation pour réduire la taille de notre algorithme pour que ça rentre sur des petits serveurs, donc qui font la taille d'une main, si vous voulez, qu'on vient brancher simplement sur le système de caméra existant. Et c'est ce serveur qui va faire l'analyse des caméras qui vont être choisies par le commerçant.
Et donc le commerçant reçoit des notifications quand il y a des gestes suspects. C'est ça?
Exactement. Donc le commerçant va choisir le type de geste qui doivent générer des alertes.
D'accord.
Donc il y a des commerçants qui nous disent, moi je veux tout recevoir sur le rayon alcool, sur d'autres rayons moins sensibles, je veux juste recevoir les gestes évidents de dissimulation, par exemple une bouteille placée dans le pantalon. Et à partir de là, il va recevoir en temps réel des notifications sous forme d'une vidéo de 5 à 7 secondes centrée sur le geste pouvant potentiellement mener à un vol à l'étalage.
Avec un taux de réussite, pardon?
Alors nous, on mesure ce qu'on appelle le taux de pertinence.
Ouais.
Selon les gestes choisis par le commerçant va recevoir 90% d'alertes liées à ces gestes choisis. Donc on a 10% de déchets, d'accord, c'est tout à fait acceptable, on l'améliore et ça permet aux commerçants du coup de ne pas être derrière ses caméras, d'être plus proche de ses clients et de pouvoir intervenir en temps réel. Et c'est intéressant, on a pas mal de clients qui ont changé leur méthode d'intervention. Par exemple, dès qu'ils reçoivent un geste suspect de notre technologie Vision, ils vont aller à la rencontre du client pour demander s'il a besoin d'aide, s'il a besoin d'un panier.
Oui, ça permet d'avoir une approche
Beaucoup plus fine, oui, délicate, d'accord, pour éviter la confrontation au niveau des caisses, par exemple.
Et bien sûr. Passionnant tout ça. Merci beaucoup, Benoît Koenig. Vous êtes le cofondateur de Vision, donc. Et vous restez avec nous. Bientôt 20h30. On revient dans un instant pour la suite de Tech & Co, la quotidienne depuis la WS Summit. On va beaucoup parler de MedTech juste après l'info éco. Et Léo Dumas qui nous présente les infos. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Encore un grand merci d'être avec nous depuis la WS Summit ici à Paris. Porte-maillot au Palais des Congrès. On parle beaucoup évidemment de cloud, hein, puisque la AWS Summit est dédiée à ça, mais aussi d'intelligence artificielle, avec toujours des cas précis, des exemples concrets qu'on avait envie de vous présenter dans Tech & Co, la quotidienne. J'accueille tout de suite Kaoutar Siguer. Bonsoir Kaoutar.
Bonjour François.
Vous êtes responsable monde de la data et de l'intelligence artificielle chez Sanofi. Voilà un géant évidemment de la médecine, de la medtech, du médicament. Ce qui va être intéressant de découvrir avec vous pendant cette dizaine de minutes, c'est comment justement Sanofi utilise de plus en plus l'intelligence artificielle à peu près partout, hein, dans les, on va dire, les secteurs de votre entreprise. Mais peut-être pour débuter, petit vaccin de rappel sur Sanofi rapidement.
Alors Sanofi, en deux mots, c'est un industriel pharmaceutique. Donc on produit des médicaments, des vaccins. Voilà, on travaille pour le patient.
C'est ça. Ça tombe sous le sens aujourd'hui d'utiliser le cloud et l'intelligence artificielle quand on est une boîte comme Sanofi.
Alors, vous savez, l'industrie pharmaceutique a pris un peu de retard par rapport à d'autres industries pour entrer dans ce monde du cloud et surtout celui de l'intelligence artificielle.
Pourquoi, à votre avis?
Parce que c'est une industrie qui est très réglementée.
C'est vrai.
Donc c'est très compliqué, c'est pas facile. Et quand on a débuté avec le domaine de l'intelligence artificielle, donc moi qui ai 15 ans, plus que 15 ans dans ce domaine, donc il y avait beaucoup de tests, beaucoup de biais, beaucoup de, comment dirais-je, de doutes aussi. Et donc c'est quand d'autres industriels, une précision d'un algorithme est de 75% est acceptable, chez Sanofi, il faut qu'elle soit de 100%.
C'est ça. Et en plus. Peut-être qu'il y a encore quelques années, on ne se rendait pas compte de la puissance de l'IA dans le domaine de la médecine. Et aujourd'hui, on voit fleurir des start-up qui font des choses incroyables. C'est peut-être aussi ça, non? C'est
la démocratisation de l'intelligence artificielle.
Et puis la puissance qui est exponentielle de toute cette IA, c'est ça?
C'est exactement, avec les technologies qu'on a à disposition, donc notamment le cloud, la capacité de calcul, et puis aussi sa démocratisation a permis aussi de l'infuser un peu partout, donc y compris dans le monde de la santé.
Alors évidemment, vous allez nous parler de la révolution des médicaments qui peuvent être, conçus par l'IA, mais aussi c'est une vraie révolution, j'allais dire, entrepreneuriale, c'est-à-dire que Sanofi se met à l'IA pour les collaborateurs, en tout cas pour une partie, je crois. Vous avez plus d'un quart des effectifs qui se mettent à l'IA.
Oui, en fait, vous savez, en juin 2023, notre PDG a annoncé tous en intelligence artificielle. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut qu'on y soit, c'est une révolution, mais aussi il faut qu'on se structure. Donc c'est comme si on est rentré dans ce marathon, où dans chaque marathon, vous savez, il faut porter les bonnes chaussures. Et donc les bonnes chaussures, c'est de bien s'organiser. Donc on a aujourd'hui ce qu'on appelle l'expert AI. C'est vraiment pour les experts dans le domaine de la pharma, donc pour des sujets qui sont vraiment liés à notre industrie, mais aussi ce qu'on appelle l'IA à grignoter ou l'IA au quotidien, donc c'est pour tous les employés de Sanofi qu'aujourd'hui ils ont à bout des doigts une application sur le téléphone pour la prise de décision dans leur travail jour le jour. Et il y a bien sûr le générative AI pour tout ce qui est lié bien sûr aux créations de contenu, mais pour ces trois blocs et ces structurations, ben on a une initiative en interne qui s'appelle RAISE. Ça veut dire l'IA responsable, donc éthique, juste, qui est sécuritaire et puis aussi éco responsable et bien sûr robuste et juste.
Donnez-nous un exemple, par exemple, d'utilisation de l'IA au quotidien pour un employé de Sanofi. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire avant et qu'il peut faire maintenant?
Alors, il y a différents exemples. Ça peut être, par exemple, l'IA concierge. Vous savez, on peut planifier nos voyages, de nos déplacements professionnels, le dépôt, par exemple, d'arrêt maladie, le suivi de paie. Donc, vraiment, le quotidien d'un employé. Mais ça peut être aussi dans la prise de décision. Par exemple, si je prends un employé de financier, ben, il est capable de faire ben, le suivi à tout instant, donc en temps réel, de l'impact de Sanofi sur le marché.
D'accord. C'est impressionnant. Et donc là, vous dites que tous les salariés sont impactés par ça aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on est passé, vous savez, ce mois-ci d'ailleurs, le mois d'avril, on est passé de all in AI, donc tous en IA en juin 2023, à aujourd'hui, moi dans l'IA, en tant que Sanofien. Donc des programmes de montée en compétences, de démocratisation, de sensibilisation pour que chacun s'y retrouve. Parce que vous savez, l'IA, c'est pas le salarié ou l'IA, c'est l'IA et le salarié ensemble pour le futur de Sanofi.
Parce que ça doit évidemment évoquer des craintes aussi, non, chez les salariés? Enfin, d'une manière générale, dans la société, il y a ceux qui disent « Ouais, l'IA, c'est génial !» Et puis il y a d'autres qui disent « Ouais, ça va détruire mon emploi !» Et j'imagine que forcément, il y a ces réflexions, non?
Il y a bien sûr ces réflexions, et c'est pour ça qu'on l'a pris un peu tôt quand on s'est lancé sur l'intelligence artificielle, donc juin 2023. Et aujourd'hui, on s'est dit « Moi, en IA, pour la sensibiliser et la rendre la poupée et ne plus le diable !»
Alors avant de parler justement de l'IA dans la recherche médicamenteuse, un mot sur l'IA, on va dire traditionnelle, et l'IA générative. Vous vous servez des deux aujourd'hui? Et quelle est celle qui est la plus utilisée?
Alors, en fait, on sert les deux. Les deux sont utilisées, chacune sur un domaine particulier. Typiquement, par exemple, sur la R&D aujourd'hui, vous savez, l'ARN messager. Aujourd'hui, on utilise l'IA pour pouvoir prédire la performance, mais aussi simuler la stabilité. On l'utilise aussi sur tout ce qui est manufacturing ou logistique pour pouvoir optimiser la production de médicaments. La générative AI, on l'utilise aussi pour la création de contenu, pour synthétiser les documents. Vous savez, synthétiser un document dans la R&D, ça peut prendre 6 mois. Aujourd'hui, on passe à quelques semaines.
Waouh. Et ça change tout, en fait.
Ça change la vie, ça nous facilite la vie et ça nous permet, en fait, d'être focus sur ce qui est notre domaine à nous, c'est le patient, comment lui faciliter la vie au patient.
Et dans la recherche, c'est une vraie révolution, l'intelligence artificielle aujourd'hui ou pas?
C'est une vraie révolution qui permet, vous savez, chez Sanofi aujourd'hui, entre la recherche moléculaire et l'arrivée du médicament à la pharmacie, donc aux patients, en moyenne, ça prend 12 ans. Et aujourd'hui, l'intelligence...
Parce qu'il y a tout un cursus.
Il y a tout un cursus, un processus
bien
qui
sûr.
Est long,
ouais, ouais.
Et compliqué. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle permet de réduire drastiquement ce temps.
Divisé par deux, vous arrivez
notre ambition, c'est de diviser par deux.
Waouh. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer l'élaboration d'un nouveau médicament en 6 ans, alors qu'avant, il fallait 12 ans, c'est ça?
C'est notre ambition et c'est là où... ma conviction, c'est qu'on va y arriver dans les futures années.
En quoi ça accélère, l'IA? Comment ça accélère, en fait?
Imaginez-vous, vous avez une maladie. Aujourd'hui...
Pas grave, hein, rassurez-moi.
on se dit, ben, en fait, le traitement, il n'est pas là. Il n'existe pas. Ben, demain, je vous dis... Il est là, il existe. C'est ce qu'on cherche. On cherche un monde avec zéro possibilité de ne pas avoir accès au traitement.
C'est-à-dire qu'on pourra personnaliser un traitement pour chaque individu, ce qui aujourd'hui n'est pas possible en fait, parce qu'il faudrait 12 ans de recherche pour une pathologie unique.
En effet, aujourd'hui, vous savez, notre cœur de compétences et de connaissances, c'est l'immunologie et la médecine de spécialité. Et donc, aujourd'hui, on se lance de chaque patient, on se considère chaque patient est unique. Et on veut offrir un traitement spécifique pour chaque patient au monde.
On parle beaucoup de jumeaux numériques dans l'industrie, dans la médecine aussi aujourd'hui. C'est des mots qui vous évoquent des choses, les jumeaux numériques?
Oui, alors on les a utilisés dans, justement dans tout ce qui est logistique. Mais on va dire, on a dépassé, on est une étape après les jumeaux numériques.
Alors c'est laquelle cette étape après les jumeaux numériques?
Alors on est dans l'IA augmentée.
Racontez-nous, ça a l'air passionnant.
Alors ce qu'on souhaite faire, c'est, vous savez, c'est avoir un doublon augmenté de chaque élément.
Un clone, c'est ça? Un clone?
Non, c'est pas ça, mais c'est plutôt... Un scientifique.
Ah oui, d'accord.
Oui, qui est capable de simuler rapidement le traitement médicamental.
D'accord. Et ça, vous y travaillez? C'est-à-dire que il y a déjà des résultats ou c'est encore, il y a encore beaucoup de travail derrière?
Alors, il y a du travail qui est fait, il y a du travail en cours et bien sûr, il y a des choses à venir. Et c'est pour ça qu'on se dit notre ambition dans les futures années, c'est d'être le leader biopharma.
Vous avez parlé d'ARN messager, c'est vrai que. Évidemment, tout ça a été mis au grand jour avec le Covid. L'ARN messager est compatible avec cette intelligence artificielle, justement, pour accélérer sa mise en place. On parle beaucoup d'ARN messager pour soigner certains cancers, par exemple.
Oui, vous savez, quand je venais de parler de l'IA augmentée et j'ai dit un doublon, c'est exactement la définition de l'ARN messager. C'est une copie. Et donc, bien sûr, elle s'apprête à cette technologie d'intelligence artificielle. Et ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on arrive à simuler les protéines et on est capable, leur stabilité, et aussi on est capable de prédire la performance. Donc, il y a déjà des travaux en cours sur l'ARN messager.
Voilà, c'est passionnant tout ça. Merci beaucoup, Kauthar Sigouer. Vous êtes responsable monde de la data et de l'intelligence artificielle chez Sanofi. Merci de nous avoir un petit peu... fait visiter comment l'IA arrive dans cette belle boîte. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et vous restez avec nous. On va poursuivre dans la main-tête parce qu'on a plein de choses intéressantes à vous raconter avec notamment des startups qui nous rejoignent sur ce plateau.
Tech & Co, la quotidienne, les invités.
Voilà, la médecine et la tech, évidemment secteur très représenté ici à la AWS Summit. Avec deux belles pépites que j'accueille sur le plateau de Tech & Co. François Dupoteau est avec nous. Bonsoir François.
Bonsoir, merci de nous recevoir.
Vous êtes le président et fondateur de Magentin Healthcare et à vos côtés, c'est Nicolas Dohu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Vous êtes le cofondateur et CTO d'Ictus. Voilà, vous allez voir que ces deux startups sont passionnantes. François, on va commencer avec vous. Magentin Healthcare. En fait, vous commercialisez cet appareil. L'idée, c'est de pouvoir avoir une interprétation des analyses qu'on peut faire. Oui. Et c'est vrai que bon, on n'est pas tous médecins ou biologistes. C'est compliqué parfois d'avoir des résultats d'analyse. Vous allez nous accompagner pour qu'on puisse avoir plus d'informations concernant ces résultats.
Oui, c'est exact. En fait, on développe une solution complète de biologie médicale connectée qui permet en fait, c'est une solution tout en un. Qui inclut le test, l'appareil, donc le lecteur de test rapide, et tout le système qui permet de faire l'interprétation des tests, avec en première mondiale, d'ailleurs ici qu'on présente, un avatar vidéo qui permet d'accompagner le patient sur l'interprétation et la compréhension de son compte-rendu de résultats. Donc vraiment, c'est une solution globale qui est à destination des pharmaciens, des centres de soins. Il faut savoir que dans de manière générale, quand vous recevez votre compte-rendu de résultats, il n'y a que 3% de chance d'avoir un biologiste qui va donner une information, une interprétation ou vous appeler sur votre résultat.
Vous parlez de quoi de prix? Excusez-moi, pour qu'on rentre dans le concret et des exemples pour que les gens comprennent. Bah, on prend la prise de sang, enfin voilà. C'est un truc tout bête.
Vous avez une prise de sang par exemple.
Prise de sang, on reçoit par mail un code et un login, on reçoit le résultat, on sait plus ou moins... Si ça va, parce qu'il y a évidemment des chiffres référents.
Il y a des
étoiles
avec des choses un peu en gras parfois.
Voilà. Et quand c'est rouge, c'est pas bon.
Voilà. Quand c'est noir avec 2-3 étoiles, c'est pas bon non plus. Ouais. Mais on n'est pas sûr que ça soit vraiment mauvais. Et puis, la problématique, c'est que vous avez très peu de chances d'avoir un biologiste au téléphone qui va vous expliquer ça. Il y a vraiment quasiment... Enfin, il y a que 3% des cas où ils vont vraiment vous interpréter le résultat.
Et alors, comment vous intervenez là?
Alors,
moi, je reçois mes analyses.
Alors, en fait, vous recevez vos analyses. Globalement, notre système va prendre l'analyse, le compte-rendu de résultats. On va y appliquer une intelligence, une IA générative qui va regarder ce qu'il y a dans votre compte-rendu de résultats et qui va faire un accompagnement des données un peu compliquées et qui va générer en fait un avatar vidéo qui va vous expliquer en fait votre compte-rendu de résultats. Donc là, vous ne serez pas tout seul, vous aurez un avatar vidéo avec une personne qui vous parlera et qui vous expliquera votre résultat. En fait.
Avec une interactivité ou ce sera un fichier vidéo on va vous dire bonjour, ben voilà, on a analysé vos résultats.
L'idéal dans le futur, ça serait d'avoir de l'interactivité. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est un fichier vidéo qu'on vous envoie, enfin où vous avez l'explication et on espère dans le futur pouvoir avoir un système interactif à l'avenir, quoi.
C'est incroyable. Donc en fait, on se retrouve avec une analyse. Alors j'allais pas aller jusqu'à un biologiste parce que j'imagine qu'il faut prendre tout ça avec des pincettes.
Oui, non.
C'est une interprétation de résultats.
En fait, c'est un accompagnement
de manière humaine.
Voilà, c'est un accompagnement. On peut vous donner un exemple. Par exemple, une femme enceinte qui a un test positif de toxoplasmose. C'est la panique. Hein. Vous recevez, vous êtes positif, et puis vous avez un test positif de toxoplasmose. Et en fait, il y a deux résultats. Il y a un résultat positif et négatif. C'est des anticorps qui fait que finalement vous avez été positif il y a longtemps à la toxoplasmose. Mais pour vous, c'est vous êtes positif. L'IA va vous expliquer que en fait non, c'est pas grave. Finalement, vous êtes immunisé contre la toxoplasmose et votre fœtus, il est immunisé aussi. Enfin, vous le protégez. C'est complètement différent du résultat que vous avez reçu, où là, c'est la panique parce que vous êtes positif à la toxoplasmose, mais vous savez pas vraiment ce que ça veut dire, quoi. Donc, c'est ce genre on ne fait pas de l'interprétation de résultats. On accompagne le patient dans la compréhension de ses résultats.
Après, même pour une analyse sanguine toute bête, qui est demandée par un généraliste, le fait qu'on ait une explication. On va dire clair, c'est intéressant. Vous faites ça aujourd'hui ?
Oui, alors en fait, nous, on va sortir à partir courant du mois de juin, justement, une solution consumer, pour les patients, où effectivement, vous pourrez télécharger.
Pourra avoir une interprétation
exactement,
de ces résultats.
Ouais. En fait, ce n'est pas une interprétation, c'est vraiment un accompagnement. On n'est pas biologiste. Le biologiste rendrait les résultats avec des variabilités, des ranges, ce genre de choses. Et nous, on explique ce qu'il y a dans le résultat. Et s'il y a des choses un peu compliquées à expliquer, l'avatar va l'expliquer et va accompagner le patient dans cette démarche-là.
C'est le début, j'imagine, de tout cela. Qu'est-ce que vous imaginez comme autre application que vous pourriez développer ?
L'IA générative dans le domaine du médical, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On démarre avec toute la partie diagnostique, mais il y a plein d'autres choses à réaliser, notamment sur les prescriptions de médicaments, sur l'accompagnement des patients ou les déserts médicaux, par exemple. Nos solutions sont très adaptées dans le cadre des déserts médicaux où on peut installer nos solutions dans les pharmacies où il n'y a pas de laboratoire et où on accompagne. Il faut savoir qu'il y a quasiment 10 à 15 millions de personnes qui vivent dans des déserts médicaux. Et dans le monde, il manque 20 millions de professionnels de santé. Donc il y a vraiment un besoin pour ce type d'outils d'IA générative et de solutions tout en un pour réaliser du test diagnostique.
Après, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le jour où on aura cette interactivité, où on pourra poser des questions en temps réel à cet avatar, ce sera formidable. Oui. Merci beaucoup François Dupoteau, président et fondateur de Magentine Healthcare, ici à la WS. Nicolas Dohu, c'est à nous. Cofondateur et CTO d'Ictos, fondé à Paris en 2016.
Tout à fait.
Présentez-nous un petit peu ce que vous faites.
Alors oui, effectivement, Ictos, fondé en 2016 à Paris, on développe des technologies d'intelligence artificielle. Bon, malheureusement, c'est pas très original aujourd'hui, pour accélérer la découverte de nouvelles molécules, pour créer des médicaments. Donc nous sommes attachés au début à développer des modèles génératifs de structures de molécules. Donc bien avant ChatGPT ou autre LLM, on a appliqué les réseaux récurrents, l'ancêtre de ChatGPT, pour créer ces structures moléculaires et les optimiser. Il faut savoir que rechercher un médicament, trouver la bonne structure, créer un médicament, c'est un processus qui est long et coûteux, entre 10 et 15 ans, 1,5 à 2 milliards d'euros d'investissement, bien sûr en tenant en compte les taux d'échec. Il y a beaucoup
Pourquoi
de programmes...
ça prend autant de temps ?
Alors ça prend beaucoup de
Parce
temps.
Parce qu'on ne se rend pas compte de l'interaction que peut avoir une molécule sur un organisme, c'est ça ?
Exactement. Alors ça se passe au niveau moléculaire, donc c'est vraiment des choses qui sont compliquées à observer. En plus, la biologie est compliquée, hein, le corps humain est complexe, donc il faut trouver déjà la cible à attaquer. Donc
oui, toute la biologie. Il peut avoir des réactions en chaîne, etc.
Exactement. Donc la sélectivité aussi qu'on veut avoir par rapport à cette cible. Et ensuite, c'est le travail des chimistes médicinaux de trouver la bonne structure moléculaire, donc de l'optimisation multiparamétrique pour répondre à un certain nombre de critères. En général, 10, 15, peut-être 20 critères en même temps. Donc imaginez, vous avez un Rubik's Cube, vous connaissez ce jeu, hein, tout le monde a joué avec ça. Imaginez un Rubik's Cube à 15, 20 faces. Wow. Alors dès que vous cassez une face, vous faites une face, vous en cassez une autre.
Déjà c'est qu'avec les 8 faces du vrai, moi j'y arrive pas, alors imaginez.
Exactement. Donc c'est exactement ça qu'on essaie d'accélérer grâce à l'IA qui est capable de designer des molécules optimales dans ce concept-là. Nous avons aussi développé une seconde intelligence artificielle qui permet de faire de la rétrosynthèse. Alors, la rétrosynthèse, c'est quoi? C'est à partir d'une molécule, comment je suis capable de la synthétiser. Il n'y a pas d'imprimante 3D moléculaire aujourd'hui. On est obligé de mélanger des produits de départ, de les chauffer, de les faire interagir grâce à des réactions chimiques. Donc aujourd'hui, nous avons réussi à développer cette IA de rétrosynthèse pour, bien sûr, la connecter à notre IA générative pour qu'elle puisse générer des molécules synthétisables.
Vous avez un robot aussi, je crois, non?
Exactement. Donc la dernière.
Une espèce de bras à trois axes.
Exactement. Alors non, ça, c'est plutôt un robot pipette. Hein. Vous imaginez pas un robot humanoïde, mais en tout cas, c'est un robot quand même. Donc on le pilote avec l'IA. Donc ça fait un an qu'on travaille sur ce projet-là, de connecter nos deux IA, donc générative et de rétrosynthèse, pour piloter un robot de synthèse. Parce que un des temps perdus dans les programmes de recherche, c'est vraiment la synthèse. Faut se dire que. On travaille beaucoup avec les laboratoires pharma, bien sûr, pour appliquer notre technologie. Et certains labos mettent 3, 6 mois à synthétiser le composé qu'on a demandé, qu'on a designé. Donc c'est aussi ça qui ralentit beaucoup la recherche. Le fait d'optimiser ça dans un robot, d'avoir une IA qui est capable de sélectionner les bons produits de départ, les bonnes réactions, nous permet vraiment de maximiser le nombre de molécules qu'on peut synthétiser dans notre laboratoire et d'accélérer la découverte de médicaments.
N'importe quel type de médicament peut être accéléré. Tout à l'heure, nous recevions la responsable monde de la data chez Sanofi qui disait que ils espèrent pouvoir diviser par deux le temps de création d'un médicament et passer de 12 ans à 6 ans. Est-ce que tous les médicaments pourraient être accélérés comme ça, à votre avis?
Moi, je pense que...
Parce que ça ouvre un champ d'espoir et de perspective incroyable.
Oui. Alors, c'est aussi notre objectif. Alors, c'est difficile de dire diviser par deux, bon... C'est bien de mettre des chiffres, mais c'est environ ce qu'on observe. À la fois grâce à l'accélération sur la synthèse, grâce à l'accélération sur le design. Aujourd'hui, il va nous falloir quand même avoir le premier médicament issu de l'IA qui sortira sur le marché. Il y a une vingtaine aujourd'hui de produits qui sont issus de l'IA, qui sont
donc
en test.
Ce sont des candidats, quoi, en quelque sorte.
Tout à fait. On vend des candidats. Pour l'instant,
dans quel domaine?
Alors, oncologie, notamment, beaucoup oncologie, bien sûr, la recherche est beaucoup basée là-dessus, mais ça peut être énormément en neurologie.
D'accord.
Voilà. Donc nous, on travaille sur les small drugs, c'est-à-dire la chimie de synthèse. Il faut savoir que le marché est divisé entre les biologics, les peptides, etc., et la chimie de synthèse, mais on s'attaque aussi à cette chimie, donc à ces médicaments biologiques. C'est aussi un axe de recherche qu'on est en train d'étudier.
Très bien. Vous travaillez avec les plus grands labos, j'imagine, de pharma?
Oui, bien sûr.
Comment vous bossez avec eux? Ils font appel à vous dans quelle situation?
Plusieurs façons de faire. Donc au tout début, on a commencé en mode service, c'est-à-dire qu'on récupère les données, on les traite, on propose des molécules. Mais assez rapidement, en fait, on a développé nos produits en SaaS, bien sûr sur AWS. C'est pour ça qu'on est ici. Donc maintenant, on a des logiciels qui proposent ces technologies. Et maintenant, on ouvre un autre champ grâce à notre laboratoire automatisé, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Integrated Drug Discovery, qui nous permet de récupérer directement le programme de recherche de nos clients, de faire les synthèses, de faire les designs et de leur proposer en fin de recherche les candidats médicaments et de leur céder la licence de ces candidats médicaments. En tout cas, la licence leur appartient.
Voilà. On parlait tout à l'heure avec la porte-parole de Sanofi justement de la possibilité de personnaliser des traitements grâce à l'IA.
Oui, bien sûr.
C'est à votre avis
on va dire
un axe de développement important?
Bien sûr. Les cibles qu'on attaque en fait sont des protéines. Les protéines, c'est l'ADN. C'est l'ADN qui se replie. Hein. Ouais. Vous avez entendu parler de DeepMind, peut-être AlphaFold qui permet de calculer le repliement de protéines. C'est aussi ce qu'on utilise. Donc demain, dans un futur un peu plus lointain, bien sûr, grâce à votre ADN, on pourra imaginez pouvoir peut-être faire des médicaments rien que pour votre séquence génétique.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci François Dupoteau.
Merci.
Président et fondateur de Magentine Healthcare. Et merci Nicolas Dohu, cofondateur et CTO d'Ictos.
Merci.
Merci. Et vous restez avec nous. On va faire une petite pause. On revient juste après pour notre dernière partie de Tech & Co, la quotidienne depuis la AWS Summit. Et on va parler de plein de choses passionnantes, comme par exemple un robot trieur de déchets. C'est chez Veolia, ça. Vous allez voir que dans l'environnement, bien évidemment, l'IA a son mot à dire. Et puis, juste après, on découvrira, entre autres, un scanner pour les véhicules de location avec une start-up qui a fait ses preuves, qui s'appelle ProofStation et qui sera, elle aussi, sur notre plateau. On revient dans un instant. Merci de nous suivre. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business depuis la WS Summit. À tout de suite.
BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Un grand merci de nous suivre. Peut-être à la radio, peut-être à la télé, peut-être en replay ou en podcast. Nous sommes ici à la WS Summit en ce mercredi soir pour vous faire vivre ce grand rendez-vous organisé par Amazon Web Services. On parle beaucoup de cloud, d'IA. Et tout au long de cette émission, on prend des exemples concrets de start-up ou de grands groupes qui utilisent toutes ces technologies. C'est le cas de Sport Bio avec Amine Raji qui est avec nous. Bonsoir Amine. Bonsoir. Vous êtes cofondateur et président donc de cette start-up, toute neuve, on va dire, hein, Sport Bio. Vous êtes à Station F, vous avez été créé l'année dernière. Et vous, en fait, vous faites un focus sur tous les dangers sanitaires que peuvent rencontrer les industriels de l'agroalimentaire. On se souvient de ces épisodes difficiles, par exemple de Buitoni avec ces soucis de pizza, etc., qui peuvent avoir des conséquences à la fois sanitaires dramatiques, mais aussi industrielles et économiques pour ces grands groupes. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant de créer cette start-up, vous étiez dans ce domaine-là. Vous avez travaillé chez Nestlé, c'est ça ?
Exactement. Merci beaucoup de me recevoir, François. J'ai travaillé toute ma vie dans l'industrie agroalimentaire. D'abord au Maroc, où j'ai grandi, dans le groupe familial qui est dans l'agroalimentaire. Ouais. Et après, j'ai rejoint Nestlé, où j'ai passé, les 6 dernières années à gérer un peu leur parc industriel dans plusieurs pays dans le monde. Et c'est là où je me suis rendu compte, le risque grandissant, surtout sur la partie microbiologique, donc les risques de contamination par des bactéries, des produits, versus les outils qu'on avait et qu'on utilisait au quotidien pour s'assurer de la bonne qualité de ces produits. On utilise des vieux outils qui ont 200 ans d'existence et qui ont des contraintes opérationnelles très lourdes. Et donc, j'ai quitté Nestlé en me disant il faut qu'on apporte une nouvelle solution pour cet énorme problème qui est grandissant.
Et vous, vous attaquez à un chantier titanesque, en fait.
Titanesque.
Parce que ce savoir-faire qu'ont tous ces industriels pour changer un petit peu leur état d'esprit et leurs outils, c'est pas gagné, non ? Vous aviez travaillé chez Nestlé dans quoi ? Dans quel type de boîte ?
Dans le domaine industriel.
Industriel.
Donc, je m'occupais vraiment des usines chez Nestlé sur plusieurs types de produits comme la nutrition infantile pour Gigos, Nidal, l'eau minérale naturelle, les produits culinaires comme Maggi, etc. Donc tout le portfolio de produits Nestlé où vraiment je m'occupais de leurs usines en général sur des sujets de production, de maintenance, d'ingénierie en général. Et en effet, le chantier, il est titanesque parce que on parle d'industrie, industrielle, où il y a encore une conduite du changement qui doit être amené qui est énorme. Et en plus, on s'est rendu compte très rapidement que nous, on connaît très bien l'industrie agroalimentaire qui a ce gros pain point, mais il y a aussi l'industrie cosmétique et pharmaceutique dont on parle un peu moins, mais qui a les mêmes risques microbiologiques avec un gros momentum actuel. Donc le chantier, il est encore plus gros que ce qu'on imaginait.
Votre objectif avec Sport Bio, c'est de réduire, on va dire, les risques sanitaires. Les pathologies, c'est quoi ? C'est des virus, des microbes, enfin je sais pas trop, c'est pas ma spécialité, mais
pas de problème.
Des contaminations qui font que toutes les chaînes industrielles sont arrêtées, c'est ça ?
En effet, donc il y a plusieurs risques sanitaires quand on produit un produit alimentaire, pharmaceutique ou cosmétique. Nous, on s'attaque aux risques biologiques. Donc c'est vraiment les micro-organismes, donc bactéries, levures, moisissures qui peuvent être un risque. Vous connaissez, les toxi-infections alimentaires qui peuvent être un très gros sujet ou même juste un produit qui est moisi, qui est impropre à la consommation. Donc aujourd'hui, les technologies qui sont utilisées pour s'assurer de la non-contamination de ces produits, c'est principalement des méthodes culturales, donc la boîte de Pétri. Ça doit peut-être vous rappeler des souvenirs de TP de SVT au lycée. Et c'est encore la technologie qu'on utilise dans plus de 90% des usines agro, pharma et cosméto dans le monde. C'est une technologie qui a une grosse contrainte. Il faut attendre en moyenne 5 jours pour avoir un résultat. 5 jours dans le domaine industriel.
C'est énorme.
C'est monstrueux et c'est pas adapté aux contraintes qu'ont les industriels aujourd'hui. Nous, grâce à l'IA et à de la photonique très poussée, on a développé une nouvelle technologie qui permet de faire cette détection-là avec un très haut niveau de fiabilité, mais en quelques secondes.
Mais alors comment vous intégrez-vous dans une usine? Donnez-nous un exemple, par exemple, de ce que vous pourriez
faire. Un exemple, c'est qu'aujourd'hui, un industriel, il doit faire tous ses tests pour s'assurer, on va dire, de la bonne qualité de ce qu'il produit, autant sur ses matières premières, sur ses produits finis, ou ce qu'on appelle les tests environnementaux, qui sont les tests autour de la ligne de production. Il prend son échantillon et souvent, il va envoyer cet échantillon à un laboratoire, comme vous connaissez vos laboratoires médicaux, où il faut envoyer l'échantillon, il y a tout le temps de supply chain. Après, le laboratoire va faire le test, ça va lui prendre plusieurs jours pour obtenir le résultat. Et donc, en moyenne, on peut attendre entre 14 et 20 jours pour qu'un industriel ait un résultat in fine. Au lieu de faire ça, l'industriel, maintenant, a une machine sur son site de production dans lequel il va directement mettre son échantillon.
Il a son petit labo.
Il a son petit labo, mais qui peut être utilisé vraiment n'importe où. C'est-à-dire que une des contraintes des technologies existantes, c'est qu'il y a besoin de laboratoires avec des biosafety level, donc vous savez, des laboratoires avec des sas de décontamination, etc. Notre technologie n'a pas besoin de ça. Elle peut être utilisée n'importe où sur le site de production. Il lance son acquisition et il obtient un résultat en quelques secondes qui lui permet de beaucoup mieux piloter sa ligne de production, savoir quand il lance des nettoyages, savoir quand il arrête et quand il y a un réel risque pour le consommateur.
Mais comment ça se présente en fait? C'est une grosse machine.
C'est une grosse machine.
Un échantillon qu'on va poser devant quoi? Devant une caméra. Comment ça marche?
Exactement. Donc c'est de la photonique. On envoie de la lumière sur l'échantillon et on voit comment cette lumière va interagir avec l'échantillon. Ça prend cette acquisition via cette machine en effet. Et cette donnée est envoyée dans un cloud pour être comparée avec toute notre librairie spectrale qu'on a construite auparavant.
D'accord.
On a entraîné notre modèle sur tous les types de micro-organismes, bactéries, levures, moisissures qui puissent arriver pour cet industriel-là. Et c'est là où l'IA, on va dire, débloque ce use case qui avant n'était pas possible, parce que ça nous permet, on va dire, d'avoir des niveaux de fiabilité très 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 élevés sans cette culture, sans cet enrichissement en quelques secondes.
Alors, on est d'accord qu'on gagne en rapidité parce que c'est instantané, mais est-ce que c'est aussi précis que la précédente analyse qui nécessitait plusieurs jours, mais qui, elle, était sûre à 100%? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un taux d'erreur élevé, j'imagine. Non,
malheureusement, c'est tout le sujet, c'est qu'elle n'est pas sûre à 100%, la méthode conventionnelle. On parle de biologie, donc vous savez, c'est du vivant, c'est très dur à appréhender. Et donc nous, en effet, on garde cette méthode comme un benchmark, comme vraiment la méthode de référence, parce que aujourd'hui l'humanité n'a pas trouvé mieux. Et aujourd'hui, on a des niveaux de performance qui sont tout aussi fiables que cette méthode de référence, qui nous permet de nous implanter sur le marché, de travailler avec les régulateurs et de montrer que notre technologie a un énorme potentiel pour remplacer cette méthode.
Et alors, quand vous allez voir ces grands industriels de l'agroalimentaire, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous écoutent aujourd'hui?
Bah écoutez, ils nous écoutent et même ils nous sollicitent parce que on s'attaque.
Vous avez déjà commencé, vous êtes déjà dans des chaînes de production?
Oui, donc vous l'avez compris, notre technologie, elle utilise ces données qui sont nécessaires pour construire le système. Donc un élément très spécifique par rapport à notre entreprise, c'est qu'on est une deep tech, mais pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir montrer que notre technologie fonctionne, on a besoin de la data. Et donc dès le début, on est allé signer des contrats avec certains des plus gros groupes industriels, agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, pour aller construire ce dataset avec eux, montrer patte blanche par rapport au niveau de performance de notre technologie et déployer. Maintenant, au moment où je vous parle, comme vous l'avez dit, la boîte a un peu plus d'un an, donc c'est tout récent, et on est déjà en train de déployer les prototypes dans plusieurs usines, dans plusieurs continents dans le monde, pour servir nos clients.
Ce qui est intéressant, c'est que vous le disiez, le champ des possibles est immense. La cosmétique, par exemple, peut faire appel à vos services aussi.
Exactement, il y a même un gros momentum dans la cosmétique parce que on utilise, on va dire, des produits pour lesquels il y a une pression consommateur sur des volets RSE, sur les excipients qui sont utilisés, qui font qu'on utilise de moins en moins de conservateurs, et donc les produits sont de plus en plus à risque et les industriels doivent faire attention et doivent s'assurer de la bonne qualité microbiologique ce qu'ils produisent. Donc on les accompagne en ce sens-là.
Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus il y a cette surenchère aujourd'hui de la qualité des aliments. Même dans l'industrie agroalimentaire, il faut de moins en moins de conservateurs, etc., etc. Donc, malgré tout, ça augmente le risque de contamination diverse, j'imagine.
Alors, sachez que l'année dernière a été l'année la plus désastreuse en termes de toxi-infection collective, donc ce qu'on appelle les TCHAC, en France, depuis 1987. Donc, malheureusement, il y a un vrai momentum microbiologique où, à cause du changement climatique, de la résistance des bactéries et de plein de facteurs macro, c'est des choses dont, j'imagine, même vous, à votre niveau, on entend de plus en plus parler et qui arrivent de plus en plus. Donc, les industriels ont besoin de s'armer en conséquence pour faire face à cette nouvelle vague.
Voilà, ça s'appelle Sport Bio. Merci beaucoup, Amin Raji.
Merci beaucoup, François.
En être le cofondateur et président. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne, avec encore un exemple concret eh bien, de ce que peut apporter le cloud et l'IA dans notre quotidien, avec mon invité Séverin Chazal-Martin. Bonsoir Séverin.
Bonsoir.
Vous êtes responsable adjoint pôle back-office à la direction des systèmes d'information de Veolia.
Tout à fait.
Et oui, voilà, Veolia qui a pas mal d'activités, dont une qui nous concerne tous, c'est le tri des déchets, qui est un vrai problème aujourd'hui, on s'en rend compte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir avec vous comment, en fait, la tech et le numérique, l'IA, le cloud, peut accélérer tout ça. Déjà, c'est une nécessité aujourd'hui, c'est-à-dire que votre métier est en train de se transformer grâce à la tech.
Exactement. Aujourd'hui, la technologie est vraiment très présente dans notre ADN, dans notre innovation. Veolia, faut savoir qu'on œuvre sur différents sujets, hein, sur la partie traitement des eaux, traitement des déchets, efficacité énergétique. Et dans l'ensemble de ces domaines, il y a une volonté très forte de notre groupe d'aller vers des investissements massifs autour des solutions techniques, opérationnelles, mais aussi technologiques. Et l'IA est un booster très fort, identifié par notre direction, pour justement aller toujours plus loin dans l'efficacité de nos process, que ce soit sur la partie détection, on va en parler, détection d'images, mais aussi process de nos incinérateurs, maintenance prédictive, voilà. Donc l'IA générative aussi est au cœur de notre intérêt.
Alors on va se focaliser sur le tri des déchets, qui est un sujet passionnant. Comment justement ce tri qui est d'une complexité incroyable, avec des réglementations de plus en plus drastiques en plus, comment faites-vous pour que l'IA, le cloud, facilite et accélère tout ça?
Alors donc effectivement aujourd'hui l'IA nous permet, via les technologies du cloud, d'être à la fois performant dans l'entraînement de l'IA, typiquement dans le cloud, et aussi directement utilisable sur nos process. Et donc ces services cloud aujourd'hui sont vraiment matures et on les a implémentés dans différentes solutions. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a effectivement capacité à pouvoir, comme cela, entraîner dans le cloud des IA à partir de quantités d'images et de pouvoir les redescendre au besoin sur tel ou tel site de manière tout à fait fluide et en local avec la performance du edge computing. On le calcule au plus près du process. On va avoir typiquement une IA capable d'inférer, donc c'est-à-dire de prédire, de détecter 200 objets par seconde sur un tapis roulant, ce qui est vraiment un gros booster de notre performance aujourd'hui.
C'est-à-dire que l'œil de la caméra, oui, va détecter, en fait, on va dire, les déchets, c'est ça?
Exactement. Aujourd'hui, typiquement...
Il va savoir ce que c'est, mais jusqu'à quel degré de précision? Si c'est du plastique, du papier, du verre, enfin, je ne sais pas trop, donnez-nous des exemples.
Donc, typiquement, aujourd'hui, on est capable, sur notre première itération, de distinguer entre 21 classes différentes. On va avoir des exemples, effectivement, de distinction entre différentes résines de plastique. Les plastiques, on va dire, transparents, les plastiques opaques, mais aussi, effectivement, la partie journaux magazine qu'on différencie des cartons, la partie acier, qu'on va différencier de l'aluminium. On va avoir une finesse, en fait, qu'on va pouvoir doser comme cela, selon les contrats, selon nos objectifs. Et c'est toute la souplesse du fait d'avoir acquis cette compétence en interne chez Veolia, d'avoir monté en compétence sur ces sujets-là, que de pouvoir s'adapter à différents cas d'usage, voilà, selon nos objectifs d'exploitation, selon les objectifs du contrat. Et on est vraiment là-dessus sur quelque chose de très, 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 très porteur, qui va apporter beaucoup de valeur dès à présent et des années à venir.
Alors, vous avez incarné toutes ces technologies, hein. Il y a Max AI, il y a Portic, il y a aussi Bob, qui est un boîtier connecté. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces trois innovations?
Alors, j'ai pas entendu, excuse-moi, la dernière.
Je vous disais qu'en fait, vous Max avez AI, développé, oui, trois technologies intéressantes. Oui. Je crois qu'il y a Max AI.
Max AI, oui.
Il y a Bob aussi, qui est un boîtier de maintenance prédictive, je crois.
Alors effectivement, c'est pas forcément sur notre, je vous en parlerai moins bien, c'est pas forcément sur notre, ouais, notre business unit.
Bah, parlez-nous de ce que vous connaissez, voilà, bien, par exemple Max AI.
Tout à fait, Max AI.
Portic, même Portic, aussi, je crois.
Tout à fait, exactement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'IA n'est pas nouvelle chez Veolia. On a installé, on a été pionnier sur l'utilisation de l'IA dès 2018 sur le site Centre de Tri d'Amiens, avec justement Max AI, qui est un fournisseur américain, et qui a permis, avec un bras robotisé, de venir opérer des gestes de tri par reconnaissance d'objets.
Il a un tapis roulant, c'est ça? Comment
exactement
ça marche?
En fait, là, c'est installé à un endroit, une localisation du centre de tri où les déchets sont circulent sur un convoyeur en tapis roulant. Et ils arrivent en fin de process où ils sont censés être le plus purs possible à l'issue du tri mécanique, du tri avec les courants de Foucault, du tri granulométrique, etc. Et donc cet endroit-là de contrôle est très intéressant pour vérifier la pureté de la matière triée, puisque c'est vraiment ça le gros challenge.
Ouais.
Réinjecter du plastique ou du papier dans l'économie circulaire, c'est avant tout pouvoir s'engager sur une qualité pour pouvoir challenger les matières premières issues de la nature. Donc notre objectif, c'est de ressourcer le monde. Voilà, c'est notre slogan, mais on y croit et on le met en œuvre via ces technologies-là. Donc Maxai, c'est un exemple. Effectivement, en interne, on a aussi une solution de IA at Edge, vous citiez Portique, effectivement, qui nous permettent de venir contrôler à différents endroits du process ce que l'on voit et de caractériser en continu l'ensemble de nos flux de déchets. Juste un exemple, un chiffre. Auparavant, ce type de caractérisation, c'était par exemple 20 kilos par site et par jour, simplement, c'était une opération manuelle. Aujourd'hui, grâce à la technologie typiquement IA at Edge, on est capable de caractériser en continu 20 tonnes de déchets.
Waouh!
Donc tout ce qui circule sur un convoyeur en fin de process, donc c'est vraiment un gap, 20 kilos, 20 tonnes, c'est vraiment très bénéfique.
Et vous en êtes où aujourd'hui? Vous êtes au début du développement de ces technologies? Est-ce que tous vos centres de tri sont équipés de ces robots? Ou est-ce que c'est encore, on va dire, des pilotes dans certains endroits pilotes?
Je dirais qu'on a franchi le stade du pilote. On a historiquement un premier site qui a été installé au UK, où le prototype a été validé. Ça a été développé par nos collègues de la R&D, hein, nos collègues chercheurs. Et lorsqu'on l'a repris chez nous en France, on l'a installé sur effectivement un premier site pilote. Et désormais, notre ambition, c'est de le dupliquer sur d'autres sites et surtout de l'adapter à d'autres cas d'usage. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la détection sur les convoyeurs, sur les tapis roulants, mais aussi, pourquoi pas, les zones de vidage au sol, les bennes d'ordures ménagères, etc.
Est-ce que ça pourra arriver jusqu'au domicile, en fait, de l'usager?
Alors, c'est une très bonne question, c'est très intéressant.
Ça aurait un sens?
Tout à fait, ça aurait du sens. Aujourd'hui, on sent qu'au niveau de nos concitoyens, il y a une demande d'acculturation, d'aide, tout simplement, à mieux trier. Est-ce que l'aluminium, c'est pareil que l'acier? Où est-ce que je mets la barquette, le pot de yaourt? Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on réfléchit à des offres de services qui pourraient nous orienter vers aller jusqu'à toucher le concitoyen via, pourquoi pas, des applications qui les aideraient à mieux trier. Ça fait partie de nos réflexions.
Ne serait-ce qu'une application qui nous dise, bah tiens, on sait pas trop. C'est vrai que parfois on se retrouve dans la cuisine avec des trucs, on sait pas trop où les mettre, dans quelle poubelle.
Exactement.
Une espèce de DIA, un peu un Shazam en fait du déchet, qui nous dirait, bah ça, vous devriez le mettre là ou pas du tout là, etc. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses à imaginer en fait.
Tout à fait. Je retiens le nom Shazam pour les déchets. Je vous donnerai un copyright.
Merci en tous les cas, Séverin, d'être passé par le plateau de Tech & Co, la quotidienne ici à la AWS Summit. Vous êtes responsable adjoint pôle back office à la direction des systèmes d'information de Veolia. On parlait de Portique. On va y rester, tiens, avec la prochaine start-up qui arrive sur ce plateau.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Allez, encore une belle découverte. Une start-up qui existe depuis pas mal d'années, mais qui grossit. Est-ce que c'est toujours une start-up d'ailleurs? On va poser la question à notre invité, Gabriel Tissandier. Bonsoir, Gabriel.
Bonsoir à tous.
Vous êtes le cofondateur de Proof Station. Donc, fondé en 2018, hein, vous fêtez vos 6 ans cette année, mine de rien.
6 ans, ça va vite. Hein.
Vous considérez-vous toujours comme une start-up, tiens, 6 ans après?
Alors, on aime se considérer comme une scale-up. Alors, c'est le mot un petit peu à la mode, juste après la start-up. Mais on se considère surtout comme une entreprise française qui fait du made in France et qui exporte ses produits partout dans le monde, et notamment en Europe et aux États-Unis.
On parlait de Portique tout à l'heure avec Veolia, justement pour détecter et trier des déchets beaucoup plus rapidement. Vous êtes un peu là-dedans aussi, hein. Vous avez mis en place une espèce de solution de portique qui permet en fait de monitorer les véhicules et la carrosserie des véhicules. C'était votre point de départ, je pense que ça l'est toujours. Expliquez-nous ce que vous faites.
Yes, donc on développe des portiques, des scanners, qui s'appellent des car stations, dans lesquels le véhicule va passer sans s'arrêter. Et avec un certain nombre de caméras, on va réaliser plus de 200 images de ce véhicule sous tous les angles, avec la meilleure qualité possible. Et à partir de ces données, on va détecter l'ensemble des dommages, de la petite rayure au gros enfoncement, présents sur la carrosserie de votre véhicule. Et donc, c'est super utile pour les concessionnaires, les loueurs de voitures, mais aussi pour les particuliers qui souhaitent vendre leur voiture très rapidement.
Ça change pas mal de choses parce qu'auparavant, enfin encore aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas partout, ça nous arrive tous de louer des voitures. Et ben voilà, il faut attendre que l'employé vienne sur place, on fait le tour. Alors même si aujourd'hui ça s'accélère un peu, l'appareil photo du smartphone a quand même pas mal changé les choses, mais malgré tout, quand il y a un couac au retour d'un véhicule, ça se complique. Là, en fait, la voiture est scannée avant que je la prenne, et elle est scannée quand je la rends, c'est ça ?
Exactement. Grâce à ProofStation, c'est la première fois que vous avez une preuve de plus de 200 photos, sous tous les angles, en 4K, de l'état de votre véhicule au départ de la location, puis au retour de la location. Donc on fait office de tiers de confiance numérique pour les loueurs de voitures et pour les locataires, les conducteurs. Et grâce à notre solution, fini les conflits, fini les disputes, fini la perte de temps aussi au moment où on récupère son véhicule, on a envie de partir en vacances, en week-end, et profiter un petit peu de son moment. Et pareil au retour, puisqu'on va détecter automatiquement les nouveaux dommages éventuels et les fournir au loueur du véhicule, mais également au locataire en lui disant, bah tiens, là, il y a un petit dommage qu'il va falloir passer à la caisse, mais seulement si c'est de votre faute. Donc on supprime les conflits complètement.
C'est comme un portique, comme un lavojet, en fait, en plus petit, c'est ça ? La voiture passe ou est-ce que c'est le portique qui avance ? Comment ça marche concrètement ?
Très bonne question. Donc le portique, il bouge pas, il est fixe. Et vous, au volant de votre véhicule, vous allez passer dedans sans vous arrêter tranquillement.
Il y a des caméras partout, des capteurs partout.
Il y a une dizaine de caméras et de capteurs différents avec un système d'éclairage structuré. Et on va réaliser, voilà, comme je vous le disais, à peu près 200 photos qui nous permettent d'avoir une base de données, si je puis dire, de photos pour détecter l'ensemble des dommages et des défauts qui sont sur la carrosserie.
Qu'est-ce que vous détectez justement ? Les scratchs, les bosses, ouais, les petites rayures.
Tous les dommages.
Parce que parfois... on peut avoir une saleté c'est pas une rayure, enfin voilà. Est-ce que vous arrivez à avoir l'œil ?
Très bonne question.
Je puis dire.
Alors, on détecte tous les types de dommages à partir de 1 cm qui sont sur la carrosserie. On détecte aussi l'état des pneus, des pneumatiques, des 4 pneumatiques. On a co-développé une solution avec Michelin pour détecter l'état d'usure des pneus et leur bon alignement, ce qui en fait une solution de sécurité au passage. Et donc, pour tous les petits cas, on va dire un peu coquins, si je puis dire, un véhicule sale avec des traces de boue, de saleté, peuvent nous perturber un petit peu au niveau de l'IA. Donc on a ajouté dans notre chaîne algorithmique des modules qui permettent de distinguer une rayure, notamment, si je prends cet exemple, d'une éclaboussure un peu poussiéreuse qui pourrait nous tromper. Donc on a ajouté différents modules algorithmiques pour différencier. On utilise la couleur notamment de ces dommages entre une saleté, c'est plutôt marron ou gris, là où la rayure a une empreinte visuelle très différente.
Parce que c'est vrai que le diable est dans les détails. Par exemple, on peut de temps en temps avoir, lorsqu'on fait un créneau, on se gare et la voiture de devant tape un tout petit peu. En fait, il y a une espèce de rayure, mais on se rend compte que finalement, c'est plus un frottement qui n'a pas d'impact. Vous arrivez à avoir cette subtilité de l'appréciation, finalement, qui est capitale aussi dans ce type de choses.
Oui, donc on y arrive relativement bien. On va dire que 95% des fois, on détecte avec une très haut niveau de confiance. Néanmoins, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire qu'on a la même qualité que l'œil humain. Donc si vous parcourez votre véhicule avec votre œil, vous allez voir des choses. Et parfois, vous pouvez avoir un certain niveau de doute. Donc quand il y a ce doute, nous, plus de 9 fois sur 10, on sait le lever avec précision. Et c'est vrai que de temps en temps, on peut se tromper. Ça concerne en général des tout petits dommages. Et on peut avoir un opérateur à distance qui, sur base photo, va pouvoir lever le doute quand on l'a.
Ah oui, parce qu'il y a comme une espèce de visio avec un opérateur qui va valider tout ça. Ou est-ce que physiquement, un représentant du loueur doit venir ? Comment ça marche ?
Non, le process est totalement automatisé. Donc pour vous, clients, vous passez dans le scanner au retour. Vous n'avez rien à faire. Vous pouvez partir prendre votre avion, par exemple. Profiter. Et ensuite, notre intelligence artificielle va détecter les défauts, valider. Et pour ces 5% sur lesquels on a besoin d'un contrôle humain, on a des opérateurs à distance qui vont pouvoir lever le doute éventuel que vous souleviez.
Alors, ça fait 5 ans, enfin, ce Car Station, c'est comme ça que vous appelez votre technologie, 5 ans de R&D. Aujourd'hui, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que ça marche. Les loueurs font appel à vous, on va dire tout ce qui est des systèmes de LOA, etc. Quand on rend des véhicules après de longues locations, vous êtes un peu partout dans le monde aujourd'hui.
Donc en effet, on travaille avec un certain nombre d'acteurs. J'en retiendrai deux essentiels. Les concessionnaires automobiles, Donc notamment sur la plaque européenne, en Allemagne, en France, dans les Nordiques et au UK également, jusqu'en Espagne d'ailleurs. Sur l'entrée atelier, on va créer la confiance entre le concessionnaire et le client, l'utilisateur du véhicule, et apporter tout un tas de services nouveaux issus de l'analyse de l'état du véhicule. Et également avec les loueurs de voitures et les aéroports qui souhaitent innover dans le cadre de la location de voitures et dans le cadre également de la gestion des véhicules que vous laissez par exemple au valet de parking. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce cas d'usage. Vous pouvez laisser votre véhicule. On annoncera d'ailleurs bientôt un beau partenariat avec un aéroport français. Et donc notre but, c'est à chaque fois de créer la confiance et l'efficacité pour l'ensemble des acteurs utilisateurs du véhicule.
Ce qui serait génial, c'est d'avoir carrément un système Proof Station, un car station à l'entrée d'un parking en fait finalement. Et en même temps qu'on identifie la plaque, on voit dans quel état est la voiture quand on sort et quand on re-rentre dans le parking, parce qu'en général on rentre et on sort au même endroit. Vous y travaillez en fait pour que ce soit encore plus fluide et que ce soit totalement transparent?
Alors la transparence, elle est déjà on va dire en vigueur avec notre système pour nos clients, qu'ils soient clients professionnels et particuliers. Ça c'est déjà d'actualité. Et par exemple, pour reprendre votre exemple, si vous allez à l'aéroport d'Atlanta, si vous allez à l'aéroport de Fort Lauderdale, bientôt de Miami, Charlotte actuellement, même à Hawaï, on est en train d'installer des portiques.
J'aimerais bien tester à Hawaï, tiens.
Hawaï, vous pouvez y aller. Je vous offre la location de voiture si vous voulez.
Et il y a déjà ce système-là?
Il y a déjà ce système en sortie de parking et en entrée pour certains loueurs qui sont nos clients. Et donc, ils créent la confiance avec leurs clients finaux, locataires de véhicules. Donc ça, si vous voulez, ça crée vraiment un climat de confiance. Ça responsabilise aussi l'utilisateur du véhicule. Il se dit, bon, là, cette fois, je ne pourrais pas dire que ce n'est pas moi. Et à l'inverse, il n'y a plus aucun conflit sur ces sites-là.
Gabriel Tissandier, vous scannez l'extérieur de la voiture. Ça peut avoir un intérêt de scanner l'intérieur ou pas?
Alors, l'intérieur, il y a beaucoup moins de dommages qui sont...
Le kilométrage, peut-être, enfin, des choses comme ça. Mais
aujourd'hui, on ne fait pas. On ne fait pas. C'est plutôt une action qui reste manuelle. Ou qui est de plus en plus d'ailleurs avec les véhicules connectés. On a des données qui peuvent remonter directement dans le cloud, les véhicules sont connectés, donc les informations par exemple de niveau de carburant, le kilométrage sont synchronisées dans le cloud automatiquement, donc il n'y a plus besoin dans un futur assez proche de réaliser ce contrôle-là. Et pour ce qui est de l'état de l'intérieur, les sièges, le tableau de bord éventuellement, donc statistiquement il y a beaucoup moins de dommages qui sont réalisés sur ces éléments-là. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on traite pour le moment.
Voilà, belle réussite, hein, Proof Station. Merci beaucoup, Gabriel Tissandier. Vous en êtes le cofondateur. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bien soir. Voilà, ce Tech & Co, la quotidienne depuis l'AWS Summit, ici au Palais des Congrès, Porte Maillot est terminé. Ça a été un vrai plaisir que de vous accompagner pendant cette heure et demie. Vous retrouverez l'émission de Frédéric Simotel, Tech & Co Business, ce week-end aussi, depuis l'AWS. Et je vous souhaite bien évidemment une très belle soirée. N'hésitez pas à nous retrouver en podcast et en replay. Et à très vite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.